public d'opérette, demeurez attentif. Mur, fermez limite. Plancher, soutenez pied. Gens d'en face, reculez pas, n'avancez pas. Plafond, protège-nous du soleil et des multitudes de la pluie. Tant, attendez-nous. Gens parmi là, supportez-nous. Public d'opérette, empêche-moi de répandre du sang, d'étendre et de rouler ces linges en bandelettes sur ma tête
comme je le fais à l'instant ensanglanté devant toi. Public d'opérette, empêche-moi de poser ma tête au sol. Public d'opérette, empêche ma tête. Empêche l'opérette, public. Public d'opérette, fais que l'espace n'ait pas lieu. Sur le plancher d'ici, empêche d'agir. Public d'opérette, n'écoute pas que je réponds ces paroles devant toi et reçois ici ma tête.
Bonjour et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis. Après cette grande pause estivale, nous sommes vraiment ravis de revenir avec une saison 3 pleine de rebondissements.
Bonjour
tout le monde, avec nous dans le studio il y a la compagnie du Désordre des Esprits. Et avant de vous en dire plus sur leur nouveau spectacle, je voulais en fait un petit peu vous présenter la saison numéro 3 avec la programmation de cette année. Donc cette année, on a décidé de faire un cycle de lecture sur Coltès, un cycle de lecture sur Jean Genet, un cycle de lecture sur Kateb Yacine, et puis des thématiques sport et théâtre, une thématique sur le théâtre jeune public et peut-être aussi sur les réécritures d'œuvres dramaturgiques. Aujourd'hui, avec nous, toute une équipe du Théâtre du Désordre des Esprits.
Bonjour.
Alors, je les laisserai se présenter peut-être à la fin parce qu'ils ont prévu de faire toute une série d'extraits, de textes sur leur nouveau spectacle qui s'appelle Bubus Blues. Sans plus attendre, on lance la première musique dont ils nous parleront plus tard, Rachmaninov.
Let me tell you why. Evil can do something exceptional. Thank you.
Je cherchais dans les œuvres éditées après la Seconde Guerre mondiale et j'ai découvert la Beat Generation. Kerouac, Ginsberg, Corso, Ferlinghetti. Et puis un jour, j'ai trouvé un exemplaire de The Outsider et les autres sont passés au second plan. C'est ma première lettre à Bukowski. C'était en octobre 65. Cher Bukowski, vous êtes un très grand poète. Je n'étais pas éditeur à cette époque-là, j'ignorais le devenir. Je dirigeais un service de fourniture et une société d'imprimerie. Après avoir discuté avec Bukowski, j'ai décidé de faire quelques tirages de lui. Imprimer d'un seul côté est le moyen le moins cher d'éditer quoi que ce soit. On imprime d'un seul côté du papier, en général un poème ou un paragraphe. Puis un soir, je suis passé chez lui, nous nous sommes assis, sa chambre était jonchée de bouteilles de bière vide, de mégots de cigarettes. Nous avons pris une feuille de papier, je lui ai demandé combien d'argent il lui fallait pour vivre, il notait les sommes, comme 3,50$ pour les cigarettes, 19$ pour la nourriture, on était au milieu des années 60, 80$ pour le loyer, 15$ de pension alimentaire. Je lui ai demandé si ça lui suffisait pour vivre. Il m'a dit oui. Ok, très bien. Je te donne 25% de mes revenus, avis que ça marche ou pas. Mais tu démissionnes pour écrire à plein temps. Je ne l'ai pas dit à ma femme.
Shut up, you're making me dull. I don't want to be dull, you know, because you paid $6. You don't want to see a jerk up here, do you? Or maybe you do, huh? Steve Martin, the jerk. Made $18 million, and I went to sleep in the middle of it. It's okay. It's all right. But it just cost you $6, okay? Let's get to work, God damn it! Hey, yeah. No, we won't. I can't tell you anything, man. Okay, let's go. I'm not gonna make it. This is the night I'm not gonna make it. They're gonna have to pull me out. I'm gonna weep on stage and say, all you people are so much better than I am. And all these years I tried to fool you. All right, Spider-Man, very good. That was good, that was a good shot. I'll accept that. Okay, let's go to work. Okay.
Bon. Voyons voir quelle mine vous avez, Chinaski. Oh, vous avez mauvaise mine. Vaut mieux que je prenne un cachet. Bon, très bien. Monsieur Chinaski, nous aimerions bien savoir où vous étiez passé ces deux derniers jours.
Un deuil.
Un deuil ?
Enterrement, vieil ami. Un jour pour emballer le macabé, un jour pour pleurer.
Mais vous n'avez pas téléphoné pour prévenir, monsieur Chinaski ?
Ouais.
Et je vais vous dire quelque chose entre nous, Chinaski.
Bon.
Quand vous ne téléphonez pas, vous savez ce que ça veut dire ?
Non.
Monsieur Chinaski, ça revient à dire que la poste aille se faire enculer.
Non.
Et monsieur Chinaski, savez-vous ce que ça veut dire ?
Non, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire, monsieur Chinaski, que la poste va vous enculer, vous.
Monsieur Fever, vous allez vous faire foutre ?
Ne parlez pas sur ce ton, Henri. Je peux vous attirer des ennuis.
Appelez-moi par mon nom de famille, monsieur. Tout ce que je demande, c'est du respect de votre part.
Eh bien, vous me demandez du respect, mais...
C'est ça. On sait où vous garez, monsieur Feathers.
Hein? C'est une menace?
Les Noirs m'ont à la bonne, ici, Feathers. Je les ai mis dans ma poche.
Les Noirs vous ont à la bonne?
Ils me donnent à boire, je baise même leurs femmes. Enfin, j'essaye.
Ça suffit. Ça dépasse les bornes. Je vous prie de remplir votre feuille d'absence et de retourner à votre travail.
Avril 1960. L'éditrice a déconné avec mon poème. Elle a fait imprimer le mot veille à la place du mot œil. Quel sale coup. Bah, c'est une très vieille femme qui publie toujours le même genre de poème. Elle m'a même écrit une lettre au sujet des oiseaux qui gazouillent en paix devant sa fenêtre et elle se demande comment un type comme moi, si talentueux, peut se perdre dans les jeux et l'alcool. J'en ai vu un d'oiseau l'autre jour, alors que je revenais de l'hippodrome et que je rentrais chez moi. Les nuages étaient hauts dans le ciel, le soleil se couchait et tout respirait l'amour et la bonté, et l'oiseau en question était dans la gueule d'un chat, accroupi sur l'asphalte en plein milieu de la route. Lorsqu'il a vu ma voiture, il s'est relevé, il a pris une de ces expressions de cinglé comme seuls peuvent en avoir les chats, et il s'est mis à courir vers le bord du trottoir. L'oiseau était d'un gris profond, il était encore vivant à ce moment-là, mais le chat le tenait bien fermement entre ses crocs, et tout d'un coup, rapidement, il lui a brisé les ailes, faisant se déployer ses plumes comme à la parade. Tout était calme, le feu est passé au vert, et je me suis mis à rouler, en pensant à cet oiseau gris, aux ailes, aux crocs. Ouais, c'est bien ça. Et merde. La vaisselle dans l'évier, le chien affamé, les fleurs pas arrosées, le lit défait, les cendriers pleins de cigarettes salis de rouge à lèvres. Ordure, qu'est-ce que tu fous? Tu te branles? Sale pute, qu'est-ce que tu connais? Pose ton cul et tête le pinard. Ne me frappe pas, ne me frappe pas, tu me frappes, mais tu frapperais pas un homme. Non, tu crois que je suis fou? Où tu vas? Je vais au putain de bar. Pas sans moi, mon vieux. Prendre un tabouret, s'asseoir face au miroir, demander une vodka au barman, voir nos verres arriver, prendre son premier coup dans un bar sombre. La vie ne pouvait pas être plus belle. « 11 novembre 1962. Au fait, la femme saoule qui vacillait à l'hôpital, je l'ai enterrée le 22 janvier dernier. J'ai jamais revu ma petite Mexicaine. J'en ai rencontré bien d'autres depuis, mais je sais que quelque part, cette Mexicaine-là aurait été au poil. Aujourd'hui, je suis seule. Elles sont presque toutes parties, les fesses, les poitrines, les robes si propres comme jamais portées, les nouveaux torchons à vaisselle dans l'armoire. Mais je ne m'y trompe pas. Je mesure toujours 1m82 pour près de 100 kilos de viande vigoureuse. Mais j'étais bien plus fort avec celle qui est partie.
Ministère des Services Postaux. Objet, avis de proposition de sanction à M. Henri Chinaski. Nous avons reçu à ce bureau une information indiquant que vous avez été arrêté par la police de Los Angeles le 12 mars 1969 pour l'état des déhydraté. Nous attirons votre attention sur la section 741 du manuel postal qui déclare les employés des services postaux sont les serviteurs du grand public et leur conduit sur bien des points doit être sujet à plus de restrictions et à de plus hauts principes que comme les emplois. Ministère des Services Postaux. Objet, avis de décision à Henri Chinaski. Objet, demande d'explication à M. Henri Chinaski. Ministère des Services Postaux. Objet, avis de décision à Henri Chinaski. Vous êtes accusé d'avoir été absent sans congé le 13 mai 1969, le 14 mai 1969 et le 15 mai 1969. Objet, demande d'explication à M. Chinaski. Avis de proposition de sanction à M. Chinaski.
J'ai cuisiné ça en ton honneur, au nom de notre amour.
Qu'est-ce que c'est que cette merde ?
Des escargots.
Des escargots ?
Oui. Tu te rends compte que pendant des siècles, les Orientaux se sont régalés de ce genre de truc ? Honorons-les et faisons-nous honneur aussi. C'est frit au beurre, bon Dieu, ils sont bons, baby. Essaye-en un. Bon, hein, baby ? Doré au beurre ?
Ils ont tous ces minuscules petits trous du cul. C'est horrible, horrible.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'horrible dans ces trous du cul, baby ? Qu'est-ce qu'il y a de... Oula. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans des trous du cul, baby ? T'as un trou du cul, j'ai un trou du cul. Tu vas au marché, tu achètes un filet mignon. Lui aussi, il avait un trou du cul. Les trous du cul couvrent la terre entière. D'une certaine manière, les arbres ont des trous du cul. Mais tu peux pas les voir. Ils chient seulement leurs feuilles. Ton trou du cul, mon trou du cul. Le monde est plein de millions de trous du cul. Le président a un trou du cul. La caissière a un trou du cul. Le juge et l'assassin ont un trou du cul.
Il y a assez de traîtrise, de haine, de violence, d'absurdité dans l'être humain moyen pour approvisionner à tout moment n'importe quelle armée. Les plus doués pour le meurtre sont ceux qui prêchent contre. Les plus doués pour la haine sont ceux qui prêchent l'amour. Et les plus doués pour la guerre sont ceux qui prêchent la paix. Méfiez-vous de ceux qui recherchent la foule. Ils ne sont rien seuls. Méfiez-vous de l'homme moyen, de la femme moyenne. Méfiez-vous de leur amour est moyen, recherche la médiocrité. Mais il y a du génie dans leur haine. Il y a assez de génie dans leur haine pour vous tuer, pour tuer n'importe qui. Ne voulant pas de la solitude, ne comprenant pas la solitude, ils essaient de détruire tout ce qui diffère d'eux. Étant incapables de créer de l'art, ils ne comprennent pas l'art. Ils ne voient dans leur échec en tant que créateur qu'un échec du monde. Étant incapables d'aimer pleinement, ils croient votre amour incomplet. Du coup, ils vous détestent. Et leur haine est parfaite. Comme un diamant qui brille, comme un couteau, comme une montagne, comme un tigre, comme la ciguë.
Février 61. Vraiment, Bill, je suis à plat ce matin. Faut que je m'arrête ici. L'œuvre de Hemingway peut bien avoir été survaluée comme n'importe quel truc. Et pendant qu'il comprenait les mathématiques de la vie et mordait dedans avec bravoure et panache, c'est l'absence de musique qui faisait défaut. Et ce qu'il a jugé comme superflu dans ses personnages, c'est ce qui a retourné le fusil contre lui. Il a commencé à écrire très tôt et très bien, et puis s'est engagé dans la guerre d'Espagne. Est-ce que ces enfoirés comprendront jamais que la politique est la plus grande pute, le plus grand trou dans lequel un homme de goût peut tomber? M s'est construit une image et il a dû s'y tenir. C'est très bien de vouloir jouer les durs, mais ça tient plus la route quand tu entres dans la cinquantaine. Vaut mieux se la jouer pépère. Se mettre à écouter des concertos de Bach ou de Vivaldi, par exemple. Avoir un truc qui roule pour toi, même si ça peut s'avérer à double tranchant. Mais c'est en tous les cas, un abri sûr où te réfugier en cas de besoin.
He got the whole world in his hand, he got the big wide world. In his hand, he got the whole world. In his hand, he got the whole world in his hand. He got the wind and the rain in his hand. He got the stars and the moon right in his hand. He got the wind and the rain in his hand. He got the whole world in his hand. He got the gambling man in his hand. He got the lying man in his hand. He got the crap shooting man in his hand. He got the whole world in his hand. He got the little bitty baby in his hand. He got the tiny little baby in his hand. He got the little bitty baby in his hand. He got the whole world in his hand. He got a you and me brother in his hand. He got a you and me sister in his hand. He got a you and me brother in his hand. He got the whole world in his hand. Well, he got everybody in his hand. He got everybody here right in his hand. He got everybody in his hand. He got the whole world in his hand.
Et oui, vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous avez entendu un certain nombre d'extraits du spectacle qui s'appelle Bubus Blues, Baiser la mort, d'après l'œuvre de Charles Bukowski, qui jouera donc au Théâtre de l'Élysée du 8 au 13 octobre 2012, donc 13 octobre prochain, à 19h30. Autour de la table avec moi, il y a Marie-Paul Laval. Bonjour Marie-Paul.
Bonjour.
Donc c'est toi qui es en charge en compagnie de Bruno Beuglin de la mise en scène de ce spectacle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton envie de monter ce Bukowski ?
Bon alors, moi je suis pas très forte pour parler, donc alors ce que je voilà, on va mettre de la musique derrière moi, déjà ça ira mieux. Et puis donc le gros défi, la grosse histoire de ce montage à propos de Bukowski, c'est de mêler des acteurs et des non-acteurs pour qu'il y ait le plus de matière humaine possible sur le plateau, pour que les non-acteurs entraîne les acteurs et vice versa, tout le monde se porte et c'est un peu difficile, voilà, donc c'est ça quoi, c'est un peu difficile mais c'est une sacrée aventure, c'est une belle aventure, voilà, c'est vraiment bien.
Et pourquoi avoir eu envie de monter un texte sur Bukowski aujourd'hui?
En fait, c'est un hasard. C'est parce qu'on a vu un documentaire sur sa vie et que j'étais troublée par le fait que ce documentaire ressemblait pas à l'image caricaturale qu'on se fait de Bukowski.
C'est quoi l'image caricaturale de Bukowski?
C'est un peu l'alcool, les femmes, voilà quoi, la provocation. Alors qu'en fait, c'est un tendre.
Un postier alors?
Oui, donc en fait, il a ça aussi. C'est bon à savoir, quoi. Il a travaillé presque toute sa vie. Enfin, il a travaillé pendant 15 ans à la poste. Et il faisait un boulot dur, quoi. Il travaillait 8 heures par jour et il faisait le tri. Donc, il avait mal partout. Et il se bourrait la gueule en plus. Après, il rentrait chez lui et il écrivait et il repartait bosser. Et entre-temps, comme il était postier, il postait tous ses poèmes. Ce qui n'était pas du tout édité à l'époque, il vivait donc à Los Angeles. Et il postait tous ses poèmes à des revues, enfin voilà. Et il a fait ça consciencieusement. Et quand ça revenait, il disait qu'il les jetait. Ceux qui revenaient, il les jetait. Et puis finalement, un jour, il est tombé sur Ferlinghetti, un éditeur poète de Los Angeles. Et puis ça a commencé comme ça.
Ouais. Qui est interprété, donc là on a entendu un peu ta voix par André Blatter.
Blatter,
pardon, André Blatter. Et donc toi tu as été dans ce projet, comment t'es venu à ce projet de monter ce spectacle?
Moi je suis pas du tout, moi je suis un amateur non éclairé. Et c'est Marie-Paul qui m'a demandé de jouer. Et je connaissais Bukowski comme j'écris aussi. Je connaissais Bukowski comme poète et comme romancier. Et Bukowski me plaît bien. Enfin voilà quoi. Enfin, surtout ses poèmes. Ouais.
Et donc à côté de toi il y a Bruno Beuglin. Bonjour. Donc c'est toi un peu qui aussi qui du coup. Gère aussi le spectacle avec Marie-Paul et puis qui est du coup dans la compagnie, c'est ta compagnie. Donc peut-être tu peux nous en dire pourquoi aussi tu as voulu venir dans ce projet et puis un peu ce que devient la compagnie du désordre des esprits. Deux questions du coup.
Deux questions, il faudra me rappeler la deuxième. Je perds la mémoire. En ce qui concerne la première question, moi je dirigeais une équipe théâtrale qui s'appelait le Nouveau Théâtre et qui malheureusement a fait faillite. Donc il a fallu remonter une autre équipe, trouver un nouveau nom et de nouveaux statuts. Alors on a pris l'association 1901 dans laquelle je ne figure pas, je devrais peut-être pas le dire, mais la chose la plus difficile c'était de trouver un nom pour cette compagnie. Et je me suis dit que la seule personne qui pouvait m'aider dans cette affaire-là, trouver le nom, c'était Arthur Rimbaud. Je suis descendu immédiatement de chez moi, j'ai été à la librairie la plus proche, j'ai acheté le pocket d'Arthur Rimbaud sur La saison en enfer et les illuminations, j'ai ouvert totalement par hasard, et je suis tombé sur Rimbaud disant « Le théâtre des esprits, le théâtre des ténèbres des esprits ». Voilà pour ce qui concerne le...
la compagnie en elle-même. Et du coup, pourquoi participer à... Enfin, du coup, pourquoi Bukowski ? Pourquoi participer à ce spectacle ?
Eh bien, tout simplement parce que Marie-Paul, quand elle m'a parlé de sa grande passion, elle en avait eu une autre avant. C'était De Luca, l'écrivain italien. Mais de sa nouvelle passion qui était Bukowski, j'ai d'abord, avant d'avoir lu ses livres, j'ai regardé un DVD où on voyait le personnage. Il y avait aussi un passage à l'émission, il a fait une courte apparition à l'émission de Bernard Pivot, qui n'était pas scandaleuse véritablement en soi, mais qui a marqué les esprits de tout le monde, où pendant un cours de l'émission, il avait posé sa main sur le genou d'une dame qui était invitée également par Pivot. Et ça a un peu fait jaser tout le monde à cette époque-là. Et puis j'ai lu un peu Bukowski, et puis tout de suite après, Marie-Paul m'a fait lire le montage, que j'ai trouvé extraordinairement beau, mais assez difficile à réaliser.
Donc la dramaturgie, donc c'est Romain Laval, c'est ça qu'il a réalisé, qui est donc à côté de nous.
Je corrige, j'ai pas réalisé le texte, c'est vraiment Marie-Paul qui l'a monté. Moi, je suis dramaturge sur le spectacle, je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que on cesse pas de dire qu'il y a surtout pas de drame dans ce spectacle. Donc voilà, mais moi en fait la question pourquoi j'ai accepté de faire ça, c'est se pose pas tellement parce que c'est un petit peu les liens du sang. Je suis aussi le fils de Marie-Paul et le fils de Bruno Bouygues. Donc c'est le sang qui a fait office de raisonnement pour moi.
Excusez-moi, je voudrais parler du grand absent d'ici. Donc notre Julianne nationale, Julianne Negulesco, à qui on a confié le rôle de Bukowski. Et il est pas là aujourd'hui. Donc c'est André qui a lu les textes pour lui. Voilà, mais c'est un bel acteur.
On peut effectivement citer les autres comédiens de l'équipe qui sont pas là. Je vois qu'il y a Cathy Chancrin, Jean-Louis Delorme, Catherine Ducard, Mathieu Grenier. Et puis Nicole Mercet, c'est ça, j'en oublie pas. Et puis donc Laetitia, hein, qui est là, pour le coup dans le studio. Bon, bonjour Laetitia. Et donc tu joues quoi dans ce spectacle, toi ?
Je joue une femme, et peut-être une femme qui est plusieurs femmes, un spectre, voilà, de ses compagnes, quelqu'un qui l'a accompagnée à un moment donné, voilà, Bukowski.
Celle qui recueille son écriture, celle qui est là pendant qu'il écrit, c'est elle qui est là à Los Angeles pendant qu'il écrit. C'est ça, j'aimerais qu'on voit un poète qui fait chier tout le monde et à côté la femme qui est là, quoi.
On me fait signe en régie, je suis impardonnable, j'ai oublié complètement de dire qu'on a un Facebook de l'émission, le Facebook du Théâtre de la Gamelle, sur lequel vous pouvez nous rejoindre en direct et on pourra en fait dire en direct vos commentaires si vous en avez, et puis si les commentaires viennent après, bah, ça nous fera plaisir d'en avoir sur l'émission. Et la page s'appelle Théâtre de la Gamelle. Dans le studio également, il y a Olivier Granger qui a réalisé toute la création son du spectacle et pour lequel vous avez entendu pas mal d'extraits.
Bonjour.
Bonjour Olivier. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené toi de ton côté à venir participer à ce projet ? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet ?
Ben, un peu comme Romain, c'est une histoire de famille. Enfin, je fais pas partie de la famille Laval-Beuglin, mais... c'est des vieux copains, ça fait longtemps qu'on fait des petites expériences ensemble, et puis c'est Buco quoi qui m'obsède en ce moment. Ça va finir bientôt, mais voilà. Et puis un projet, en fait on cherchait quelqu'un de disponible pour monter ce truc-là. Enfin, voilà, c'est Marie-Paul, pareil, qui m'a. Enfin, c'est Seymour, plus exactement, Seymour Laval qui fait les lumières et
la scénographie et la scéno, lumières, ouais.
Qui est un vieux pote d'il y a très longtemps et qui m'a branché sur le truc au début de l'été. Donc j'ai accepté avec plaisir parce que c'est une famille que j'aime bien.
Bah. Du coup, par rapport au théâtre de l'Élysée aussi, tu me disais, Marie-Paul, que vous avez été pas mal soutenu.
Oui, en fait, Jacques, il soutient, il a toujours soutenu les projets de Bruno. Bah, il en a soutenu beaucoup. Et du coup, bah, il nous a soutenus automatiquement, quoi. Puis aussi, parler du théâtre du Verso, donc de Philippe Labeaune, qui nous a prêté sa salle de répétition pendant longtemps. Voilà, enfin, je sais pas. Et puis aussi, remercier Gérard Fontaine, qui nous a aidés aussi, qui est venu jouer avec nous. Et Gordon Hart, qui est la voix du spectacle, le seul qui parle avec un accent anglais, non, enfin, qui est un artiste peintre. Et en fait, les artistes, ils se reconnaissent dans ce spectacle. Et du coup, c'est très important. C'est pas seulement une voix, lui. Voilà.
Mais Marie-Paul, tu disais que le spectacle, c'était donc sur, il y avait des professionnels et puis des personnes qui n'étaient non professionnels, non comédiens, mais qui du coup jouent. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur le parcours de ta compagnie, de ton vécu dans le monde du théâtre? Peut-être que t'as, enfin, peut-être nous parler des anciennes créations que t'as fait, des anciens projets.
Moi, je suis actrice depuis très longtemps. Depuis que j'ai rencontré Bruno, donc je sais pas, je devais avoir 17 ans. Moi, ce que je me suis rendu compte dans ma vie, c'est que, enfin, dans ma vie d'actrice, c'est que j'ai du mal avec les acteurs. J'ai du mal dans les équipes. Je travaillais pas mal et j'ai rencontré pas mal d'équipes. Et j'ai du mal. J'ai besoin qu'il y ait d'autres personnes. Parce qu'un acteur, c'est un animal qui souffre pendant les répétitions et tout ça, qui a mal et qui est obsédé. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une espèce de ritournelle comme ça que je supporte plus, moi, même en tant qu'actrice dans une équipe. Et j'avais besoin qu'il y ait du quotidien, de la vie normale, des rires, de la légèreté. Et c'est pour ça que j'ai demandé à André Blatter et aussi à Cathy Chancrin, qui donc tenait le Gargagnol, qui est un lieu au lieu lyonnais à la Croix-Rousse, qui remplaçait le restaurant de Marité. Enfin, donc moi j'ai demandé à des personnes comme ça. Et du coup, parce que eux, quand on les pose sur un plateau, c'est un animal. C'est comme si on pose un animal, je suis désolée d'entrer, mais c'est ça, sur un plateau c'est un animal, et nous on est à côté et on est acteur et on apprend et on est obligé d'être aussi animal qu'eux, et ça change la façon de voir, c'est moins professionnel et tout ça, mais bon, ça donne beaucoup de brouillon tout ça, puis moi-même je suis pas très claire, enfin, donc là c'est la crise.
Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus exactement sur le parti pris, du coup, sur le spectacle en lui-même, le fil conducteur, d'où ça parle, enfin, par rapport peut-être plus au montage, du coup, qu'est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va voir un Bukowski, tout le temps sous, tout le temps avec des femmes, ou justement, il y a peut-être autre chose qui est montrée?
C'est de l'énergie.
Oui, il a raison, c'est de l'énergie, c'est de la désinhibition. Olivier, derrière nous, il dit c'est de l'énergie, mais c'est vrai. Mais aussi, je voudrais parler de Guégan, qui est traducteur de Bukowski. C'est un de ceux
Gérard
qui
l'a... Guégan, ouais.
Voilà, Gérard Guégan, c'est un de ceux qui l'avait fait découvrir quand il était aux éditions du Sagittaire, qu'il avait fait découvrir en France. Et en fait, je me suis mis en lien avec lui, et lui, il m'a soutenu beaucoup. Et donc là, je vais vous donner un petit scoop, parce que ils vont éditer la suite, ils vont traduire la suite de Journal d'un vieux dégueulasse pour l'année prochaine. Et donc c'est Guégan qui va le traduire.
Avec les éditions du...
Avec chez Grasset maintenant.
Chez Grasset,
maintenant toute l'œuvre de Bukowski, elle est chez Grasset.
sauf un livre de poèmes qui est aux éditions du Rocher.
D'accord.
Mais sinon, et donc Gérard Guégan va venir voir le spectacle.
Gérard, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Letty, toi, tu n'as pas trop parlé de ton attachement au projet et de comment t'es venue à... Est-ce que tu connaissais Bukowski avant?
Bukowski, je l'ai vu et je l'ai approché aussi. J'avais vu l'émission de Bernard Pivot et ça m'avait... Il y a longtemps. Et c'est vrai que ça m'est resté longtemps dans la tête parce que... Quand j'en ai reparlé avec Marie-Paul, on avait eu la même sensation. C'était que qu'on voulait à tout prix le tourner en ridicule ou le pousser dans une démonstration, Bukowski. Alors que c'était lui le seul qui disait des choses intéressantes et sensées pendant toute l'émission. Il parlait pas beaucoup, hein, mais les seules choses qu'il disait, c'était des choses intéressantes et sensées. Et je sais pas, on voulait le tourner comme ça... comme montrer comme ça un animal effrayant, une bête. En plus, c'était quoi le sujet de l'émission? C'était des personnes comme ça. Le sujet, c'était des personnes atypiques ou
genre comme une bête de foire, voilà, qu'on montre.
Voilà. On avait réuni plein de bêtes de foire et on les montrait à la télévision française. Et il y avait l'américain dedans et qu'on voulait à tout prix tourner en ridicule. Qui était bien parti, il était bien imbibé d'alcool, mais c'était le seul qui tenait le truc et qui disait les choses sensées, donc ça m'avait marqué, ça. Dans ce projet, c'est Marie-Paul qui m'a embarqué parce que je l'avais rencontré pour complètement autre chose et ouais, j'ai bien aimé ça, comment elle est, sa sensibilité, et puis je me suis dit que ce serait bien de rentrer dans son univers, d'essayer de partager quelque chose ensemble. Voilà.
Et juste, moi, pour rebondir sur ce que tu as dit...
C'est Olivier...
Par rapport à cette façon de le montrer sous un certain jour, comme l'alcoolique de service qui n'arrête pas de provoquer, qui n'arrête pas de... Et en fait, ça, je pense que c'est quelque chose qui est en relation avec sa vie, dans le sens où, moi, un truc qui me plaît bien dans ce personnage qui a de multiples grilles d'entrée, on va dire, mais c'est que c'est quelqu'un qui a connu le succès de son vivant, c'est-à-dire qu'il a galéré pendant 20-30 ans, et qu'il y a un moment où on venait écouter ses lectures parce que c'était à la mode, on attendait de lui qu'il fasse cette espèce de numéro.
C'est vrai.
Où lui, il en croquait aussi, c'est-à-dire qu'il en profitait aussi de temps en temps, mais c'était toujours de façon un peu à double détente, quoi. Il savait très bien ce qu'on attendait de lui, mais c'est justement pas ce qu'on essaye de. Enfin, c'est justement pas là-dessus que le personnage est. Et le plus intéressant, quoi, dans cette espèce de schéma, cette caricature de Bucco, en fait. Et qu'il a vraiment énormément de facettes bien, bien, bien différentes, bien autres, quoi. Voilà.
Bruno, peut-être tu veux rajouter quelque chose sur le spectacle, sur le...
Eh bien, sur l'homme, l'écrivain lui-même. Quand sur les DVD j'ai vu son visage, je veux dire, c'est un homme, on voit un homme ravagé, on voit un homme qui a des restants de pustules sur la peau du visage, on voit quelqu'un qui a énormément souffert d'une part, et puis également qui a énormément aimé. Voilà ce que j'ai retenu un petit peu, moi, des photos et des textes que j'ai pu lire ou des DVD que j'ai vus. Et je trouve que c'est extrêmement rare d'avoir affaire à un écrivain, un poète de cette taille et de surtout peut-être de ce type-là. Par exemple, on aurait à dire quel est l'auteur, l'écrivain, le poète, à l'inverse de Bukowski, on prendrait certainement Bernard-Marie Coltès, que j'ai bien connu, donc je ne vais pas parler de Coltès.
On va avoir un cycle de lecture sur Coltès, justement. Ce sera l'occasion peut-être de te réinviter.
Eh bien, j'espère bien, parce que c'est le Nouveau Théâtre, quand il existait, qui pour la première fois a fait une œuvre de commande à Coltès. Parce que je voulais dire, c'était l'extrême, c'est les deux extrêmes, il me semble. Hein. Et au niveau de l'écriture, ce qui est quand même le plus intéressant parce qu'on n'est pas des universitaires, au niveau de l'écriture et au niveau du bonhomme. Enfin, ce sont deux types, deux poètes extraordinaires, deux écrivains extraordinaires qui ne se ressemblent d'aucune manière et qui, tous les deux, ont acquis une notoriété, pour le dire, mondiale.
Eh ben, je vous remercie vraiment chaleureusement. Ne partez pas. Marion Grenier va nous faire une chronique sur l'actualité du spectacle vivant aujourd'hui. Et puis, on va vous annoncer un peu plus les prochaines cartes blanches et lectures du mois d'octobre prochain avant de nous quitter. Et les dates. Ah oui, je rêvais d'abord, avant de passer la parole à Marion.
Et de leur air.
Ouais, je vais vous redire les dates. Donc c'est du 8 au 13 octobre à 19h30 au Théâtre de l'Élysée. Le Théâtre de l'Élysée, c'est au 14 rue Bascombalot, au métro D, de la Guillotière, dans le 7e arrondissement. Et voilà, n'hésitez pas à venir nombreuses et nombreux voir ce spectacle et en parler autour de vous.
Bonjour à tous.
Bonjour Marion.
Je suis impressionnée au milieu de cette grande famille. Il faut bien se lancer. Il fallait bien que quelqu'un ouvre la saison du Théâtre de la Gamelle et un grand merci au Théâtre du Désordre des Esprits et que quelqu'un ouvre la saison des chroniques vivantes de la Gamelle. Balzac a dit, paraît-il, que l'art du chroniqueur est de traiter une matière indigente en y mettant du piquant, c'est-à-dire en la truffant de mots d'esprit et d'allusions. N'importe qui, c'est encore Balzac, d'un peu adroit pourvu qu'il fréquente les cafés à la mode, peut faire cette besogne. Va-t-on vérifier aujourd'hui qu'un thé passion aux tasses livres, quelques pressions aux 203 et pizza à l'impromptu peuvent faire de nous, si tant est que l'on soit un peu adroit, des chroniqueurs dignes de ce cher honoré. Allez, je m'y colle.
Mais oui.
Même pas pour vous parler de théâtre, quoique. Pour vous parler d'actualité culturelle lyonnaise, de trucs à ne pas rater ou qu'il ne fallait pas rater, qu'on a adoré, détesté. Bref, l'idée c'est d'être dans le coup. Et pour le coup d'actualité culturelle lyonnaise de ce mois de septembre a été la Biennale de la danse.
Tiens, non.
Pas de chance, c'est terminé, ou presque, il ne reste que ce week-end. Bon, je vous dresse la liste des spectacles que j'ai vus, sinon on ne va pas s'en sortir, et je mets un petit ton pour vous annoncer la couleur. J'ai commencé par David Bobé, groupe Rictus, Roméo et Juliette aux Subsistances. Continuez avec Angelin Prège-Locage, ce que j'appelle oubli au Célestin. Enchaîné avec Jiri Kilian, ballet de l'Opéra de Lyon, One of a Kind, à l'Opéra. Suis retournée aux Subsistances, découvrir Antoine Defort et Alori Gorger, désolée pour la prononciation, Germinal. Et enfin, est terminé avec Robin Orlin, les danseurs du Moving into Dance Mofanchung, au Transborder. Titre du spectacle, attention, Beauty remained for just a moment, then returned gently to her starting position.
Waouh!
Et vous n'avez pas eu d'indigestion?
Presque, mais c'était chouette. Bon, un panel de formes donc, trois créations, David Bobé, Antoine Defort, Prège-Locage, tâtonnante, et tout à leur manière plus proche du théâtre que de la danse. Un grand et sublime ballet, Kilian, et une explosion de joie, Robin Orlin. Un panel d'émotions, forcément. Un moment de douceur et de fraîcheur aux Subsistances. Roméo et Juliette, tout jeunot, tout mignon, entourés d'acteurs fragiles et puissants acrobates, ont séduit. Les mots de Pascal Collin, le traducteur, bousculés. Les pas de breakdance de Mercutio, amusés, agacés. Mais on n'a pas pleuré, pas un chouïa. Émotion toujours, une colère monstre. Je passe vite, très vite sur mon escale au Célestin. J'y ai découvert, oui, Prège Locage, avec sa pièce « Ce que j'appelle oubli ». Un comédien nous raconte le fait divers qu'il ne faut en effet à tout prix pas oublier. Du jeune homme qui s'est fait battre à mort par 4 vigiles au carrefour de la Part-Dieu il y a quelques années, pour y avoir ouvert une bière dans un rayon. Sur ce texte bancal, danse pendant une éternité 6 sublimes danseurs. Mais rien ne marche, rien ne prend. On bouillonne, mieux vaut très vite oublier. Petit focus d'émerveillement sur le ballet à l'Opéra de Lyon. Puissance des corps, surprise du corps. Jiri Kilian nous a offert 2 heures de pur bonheur en 3 temps. Duos amoureux, voyage exotique et sobre solennité. 23 danseurs sous le regard d'un violoncelliste incroyable. C'était simple, c'était doux et humble. Pour continuer ce spectacle, ce panorama de spectacle hybride, je vous livre quelques notes prises à la volée en sortant du spectacle Germinal, aux Subsistances donc. 1h30 de rire et d'intelligence. Antoine Defort et Alory Groger font du bien. Dans leur Germinal, où à la fois Zola et ce que l'on appelle danse aujourd'hui sont absents, tout devient possible. 4 jeunes gens partent de rien, du tout, et découvrent devant nous, public hilar et séduit, tout. Absolument tout. Ils explorent un monde de possibles et de possibles moyens de communication. Pas de radio, pas d'internet. D'abord, la pensée retranscrite sur des panneaux. La pensée transcrite dans le micro, pour celui qui a le micro. La pensée de tous transcrite par celui qui tient le micro, puis vient la parole propre à chacun. Ça nous permet d'être indépendants, disent-ils. On traverse ensuite une phase où parler ne sert qu'à faire des listes, puis où on ne peut plus que chanter, etc., etc. Je pourrais vous en parler des heures. Pour le plaisir, je vous lis ça, un extrait du dossier de création, parce que c'était une création. Dans Germinal, on refait donc le monde, mais en se reposant absolument toutes les questions, en mettant tout sur le tapis, des lois de la physique au fondement de l'interaction sociale. Et ce, dans le contexte relativement étroit d'un plateau de danse noir et nu. Si on avait la possibilité de repartir de zéro, même à l'intérieur de 8 mètres par 8, on ferait comment? Je vous laisse rêver un peu. Pour finir, on peut se dire que cette Biennale de la danse, finalement, a toute sa place et sa légitimité sur les ondes du Théâtre de la Gamelle. Nombreux inconditionnels du beau mouvement dansé ont certainement été surpris. Les mots ont porté, les corps se sont un peu effacés, mais on a voyagé. Je vous fais entendre les chants et les rires volés à « Beauty remain for just a moment and return gently to a starting position » dans 30 secondes. Le temps d'annoncer le spectacle « Assis, debout, couché, sauté » de la compagnie Grimm et Concocte. C'est donc ce week-end au Théâtre Midland. Ça commence ce soir à 20h. Demain, ce sera à 19h30. Et dimanche, à 16h30. C'est un objet non identifié entre théâtre slam et rap qui raconte à travers 2 monologues la chute d'un personnage décidé à en découdre avec son quotidien répétitif, inutile et ennuyeux. Courez-y aussi. Ah oui, c'est au 33 quai Arloing à Vez. Le théâtre Midland. Allez, hop, pour finir, un peu de musique.
Je profite de la panne pour dire que c'est interprété par Florent Fichot, ce spectacle Assis, debout, couché, sauté. Et que. Il faut courir à aller voir ce spectacle. Allez, on écoute l'extrait du spectacle de la Biennale de la danse. On n'entend pas grand-chose, Marion.
Tu peux chanter une chanson.
Ouais, les types chantent.
Oh, je te jure que ça marchait hier, c'est trop bête. Ça dure 1 minute, hein, au pire.
Eh ben, tant pis.
Tant pis.
Je vais en profiter beaucoup. Quand même. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup, Marion, merci pour la chronique. Je précise juste les prochaines émissions du Théâtre de la Gamelle. Je vous annonce juste les dates d'octobre. Le 5 octobre prochain, donc vendredi prochain, on va lire en direct Les Amertumes de Coltès. Les amateurs, les lecteurs et tous ceux qui veulent parler de Coltès sont bien évidemment les bienvenus pour parler et partager cette émission avec nous. On invite les 3-8 et on invite donc Guinéjon pour son Duras Platini. Un entretien avec Marguerite Duras et Platini qui a eu lieu en 87 et qui va être mis en scène au Nouveau Théâtre du 8e. On les invite donc le 12 octobre à la radio. Le 19 octobre, avec Hélène Grange, on va lire des extraits de son spectacle qui s'appelle Mon sexe sportif. Et donc, c'est dans le cadre du cycle Sport et théâtre. Et le 26 octobre, c'est notre première lecture de Kateb Yassine, ce poète dramaturge algérien, dont on a vraiment envie de découvrir ses pièces cette année, notamment avec Clara Fustier, Florent Fichot et moi-même, qui sommes très motivés pour faire ces lectures cette année. Et ben, je vous remercie en tout cas tout le monde d'être venu à l'émission aujourd'hui. C'était vraiment très agréable de vous avoir pour cette première émission.
C'est partagé. Merci.
Et puis à très bientôt, à vendredi prochain.
Et un gros merde pour l'Élysée.
Et un ouais.
C'est le mot de la fin.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.